VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Des échauffourées ont éclaté à la mi-journée entre la police anti-émeute et des manifestants à Kisumu, une grande ville de l'ouest du Kenya et l'un des fiefs électoraux du candidat de l'opposition à la présidentielle, Raila Odinga. D'après l'AFP, la police a tiré des grenades lacrymogènes en direction de plusieurs centaines de manifestants dans un quartier de la ville où ils avaient érigé des barricades et enflammé des pneus. M. Raila a rejeté en bloc aujourd'hui les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui le donne dévancé par le sortant Uhuru Kenyatta. La commission électorale IEBC a publié ce matin les résultats de 90% des bureaux de vote du pays, créditant M. Kenyatta de 54,57% des suffrages contre 44,58% pour son rival Raila Odinga sur un total de 13,8 millions de votes exprimés. Comptabilisé. En Afrique du Sud, le Parlement a rejeté hier la motion de défiance voulue par l'opposition. Le vote à bulletin secret n'a pas suffi pour faire tomber M. Zuma, mais la presse sud-africaine estimait aujourd'hui que l'échec de la motion de défiance la veille contre le président Jacob Zuma n'était qu'une victoire en demi-teinte pour le chef de l'État, le vote relativement serré exprimant des divisions profondes au sein du parti au pouvoir. Mardi soir, il n'a manqué que 24 voix sur 400 pour que la motion de défiance présentée par l'opposition contre M. Zuma soit votée par les députés. Et pour l'analyste politique Achille Mbembe, la victoire de Zuma est l'arbre qui cache la forêt.
M. Zuma est une vieille casserole qui traîne énormément de scandales. C'est peut-être la dernière motion de défiance au Parlement. Mais il n'y a pas que le Parlement. Il y a d'autres épreuves qui l'attendent devant les tribunaux, devant le Conseil constitutionnel, par exemple. Ce n'est pas du tout la fin de ses tourments. Et cela ne m'étonnerait absolument pas si M. Zuma devait être congédié par son parti lui-même d'ici la fin de l'année. Ce qui est apparu, c'est que la victoire de M. Zuma est une victoire à la Pyrrhus. L'ANC a étalé devant la nation sud-africaine les profondes divisions dont elle est affligée depuis plusieurs années déjà et qui avaient déjà abouti, ne l'oublions pas, déjà à la fondation de CO, à la fondation de l'IFF de Julius Malema, à une espèce de petite scission. Et au moment où nous parlons, il y a une faction réformiste très forte à l'intérieur du parti qui risque de s'en aller au cas où le cas Zuma n'est pas proprement réglé. Et donc, consacre au fond le début des hostilités. Ce n'est pas la fin du tout.
Achille Mbembe en Afrique du Sud. Les chauffeurs routiers du Burkina Faso comptent aller de nouveau en grève dès ce mercredi. Cette fois, c'est pour protester contre des propos du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui a défendu les éléments des forces de l'ordre ayant bastonné des chauffeurs la semaine dernière. Mohamed Lamine Ouedraogo est le porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers.
La semaine passée, il y avait des accords où il fallait payer les taxes. Introduite par le mois. L'Union des chauffeurs routiers d'Abé a signé l'accord, donc signé les accords, et maintenant ça devait prendre effet après le 31 juillet. Donc, l'Union des chauffeurs routiers du Kinabé ne sont pas opposés, mais ils ont dit que le fait que les chauffeurs aient effectué le voyage, aller sans prendre les taxes avec les propriétaires des véhicules, il est très difficile d'avoir de l'argent au retour pour payer ces taxes. Donc, c'est dans ce refus-là qu'il y a eu maintenant un affrontement entre les forces de l'ordre et les chauffeurs. Le ministère des Transports est rentré en contact avec les chauffeurs. Ils sont tombés d'accord maintenant de l'application de la taxe le 1er septembre. Donc, ça, c'était rentré dans l'ordre. Maintenant, les chauffeurs ont demandé qu'on fasse la lumière sur le bavure commis par les forces de l'ordre. Maintenant, le ministre est sorti sur les zones hier, dit qu'il n'y aura rien, que les forces de l'ordre n'ont qu'à se rassurer, que rien ne peut leur arriver. Que même devant les tribunaux, rien ne peut arriver à ces forces de l'ordre.
Mohamed Lamine Ouedraogo, porte-parole de l'Union des chauffeurs routiers au Burkina Faso. Le pape François a dénoncé aujourd'hui les récentes attaques contre des communautés chrétiennes au Nigeria et en Centrafrique, appelant à une fin de la haine lors de son audience publique devant les fidèles au Vatican. Au moins 11 personnes ont été tuées dimanche dans une église du sud-est du Nigeria lorsqu'un ou plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur les fidèles. Le drame s'est produit dans l'église catholique Saint-Philippe Philip Dozobolo près d'Onitsha, dans le sud du Nigeria. Le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné cette attaque, la qualifiant d'épouvantable crime contre l'humanité et d'indicible sacrilège. Pèlerinage à la Mecque. Chaque année, des centaines de milliers de musulmans du monde entier se rencontrent en Terre Sainte afin d'accomplir le Hajj, l'un des piliers de l'islam. Notre correspondant Sidiki Baro nous parle ici de l'étape de Médine où il s'est entretenu avec des pèlerins ivoiriens et maliens.
L'aéroport international Ibn Abdulaziz ne désemplit plus. Un balai incessant d'avions atterrissent avec à bord des pèlerins venus de tout le monde entier. Voyage épuisant certes, mais très exaltant, comme le confessent ces pèlerins venus de divers horizons à qui nous avons tendu notre micro.
Je suis Jarasubadia Karidia de Pougon et le parcours, je l'ai passé franchement avec beaucoup d'appréhension alors que ça s'est bien passé. Au départ, je m'inquiétais, mais je suis déjà là.
Malamin Haïdra, je suis de Bamako, des quartiers de Ravella. Vraiment, nous avons accueilli vraiment dans les bonnes conditions, franchement dit.
Après les formalités de l'aéroport, le logement est la préoccupation majeure des pèlerins. Les autorités de plusieurs États ouest-africains, tels que la Côte d'Ivoire et le Mali, s'investissent afin de garantir à leurs ressortissants les meilleures conditions d'hébergement. Car l'un des défis majeurs consiste à trouver des logements autour de la mosquée Al-Haram.
Lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norosote Ousmane. Voilà, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés et maintenant nous sommes à l'hôtel, nous cherchons à nous faire loger. Le cadre est très beau. J'ai pu loger du côté de la mosquée du prophète. Ça augmente ma foi.
Moustapha Sibi, je viens du Mali, dans le cercle de Kita. Depuis qu'on est venu, si tout va bien, on n'est pas loin de la mosquée. Alhamdoulilah, tout ce qu'on veut voir ici, presque on a tout vu. Nos dirigeants nous dirigent dans les bonnes conditions.
Pour l'étape de Médine, les communautés ivoiriennes et maliennes disent être satisfaites.
Bané Abdullah, je suis satisfait, tout est bien, l'organisation, tout l'accueil, bon, tout est bien.
Yaya Traoré, de Sigasso. Bon, effectivement, on a bien arrivé, on a bien hébergé aussi. Bon, il n'y a pas aucun problème. Bon, notre logement et la mosquée, c'est pas loin. Quelques pas seulement, bon, on peut arriver à la mosquée facilement. Depuis qu'on est arrivé, on peut faire les 5 prières régulièrement. Effectivement, on est à l'aise.
La vie de Médine ne fait pas partie des rituels du Hajj. C'est surtout une étape consacrée à la visite des lieux saints tels que la mosquée Al-Haram, la mosquée où repose le prophète de l'islam et certains de ses fidèles compagnons. Sidiki Baro, Médine pour VOA Afrique.
En Tunisie, 2 djihadistes ont été abattus et un troisième a été blessé et arrêté lors d'une opération de la gendarmerie dans une région montagneuse du centre-ouest du pays, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la garde nationale. Après la révolution de 2011, la Tunisie a fait face à l'essor d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers, mais aussi de civils tunisiens et de touristes étrangers. Les groupes djihadistes essentiellement actifs près des frontières algériennes et libyennes se revendiquent du groupe État islamique ou d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La ministre française des Armées, Florence Parly, a condamné aujourd'hui un acte lâche après qu'une voiture a foncé sur des militaires en patrouille à Levallois-Perret, près de Paris. 6 militaires du 35e régiment d'infanterie de Belfort ont été blessés, dont 3 plus grièvement, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a précisé la ministre dans un communiqué. La voiture incriminée a pris la fuite. Une enquête a été ordonnée notamment pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste, a précisé le parquet parisien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'organisation Human Rights Watch s'est inquiétée aujourd'hui de la mort de civils, dont des enfants au Yémen, dans des tirs d'artillerie à répétition des rebelles chiites houthis contre des quartiers tenus par les forces pro-gouvernementales à Taïz. Ces tirs ont déjà fait, sur une période de 10 jours, en main, au moins 30 morts parmi les civils et plus de 160 blessés, indique Human Rights Watch en citant des médecins exerçant dans 2 hôpitaux de cette ville du sud-ouest du Yémen. Et puis le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde spectaculaire à la Corée du Nord, déclarant que si Pyongyang continuait ses menaces contre les États-Unis, elle se heurterait au feu et à la colère d'une ampleur que le monde n'a jamais vue jusqu'ici. Auparavant, les médias américains avaient révélé que Pyongyang avait réussi à miniaturiser des têtes nucléaires pour les missiles intercontinentaux récemment testés. Peu après les propos de M. Trump, la Corée du Nord a publié un communiqué menaçant d'attaquer les bases américaines sur Guam, mais selon les analystes, il semble avoir été préparé avant la mise en garde du président américain. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi sur le continent. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Merci de votre soutien et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.